Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donald Trump repousse son ultimatum de 24 heures et menace encore une fois Téhéran dans un message injurieux de frapper les infrastructures essentielles à l'Iran qu'il appelle à rouvrir le détroit d'Ormuz. Soupçonné d'une quinzaine de viols, agressions sexuelles et harcèlement, un psychiatre mis en examen à Reims et selon nos informations, il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes. Et l'OM qui a perdu plus qu'un match hier soir face à Monaco, battu 2-1 rétrogradé au pied du podium, est désormais sous pression.
Ouvrez le détroit ou vous vivrez l'enfer.
C'est la nouvelle menace de Donald Trump qui fixe un nouvel ultimatum à l'Iran. Il le dit sur son réseau social. À Washington, ce matin pour RMC, notre correspondant Antoine Lard, un message posté hier soir avec ces mots à lui, loin des standards, Antoine, de la diplomatie.
Oui, dans un message sur son réseau social, Donald Trump se lâche et menace l'Iran de façon particulièrement ordurière et violente. Ouvrez ce putain de détroit d'Ormuz, bande de tarés. Voilà ce qu'il écrit. Et il affirme qu'il fera tout sauter si les Iraniens refusent. Il menace de s'en prendre aux ponts et aux centrales électriques du pays. Dans le même temps, le président repousse de 24 heures son ultimatum. La nouvelle date butoir, c'est mardi soir. Trump dit qu'il y a des chances d'obtenir un accord d'ici là. Alors, c'est pas la première fois qu'il fait le coup de fixer un ultimatum et puis finalement de se dégonfler. Mais là, il semble déterminé à mettre ses menaces à exécution. Depuis le sauvetage spectaculaire du pilote du F-15, il est en roue libre, prêt à s'en prendre aux infrastructures civiles de l'Iran, ce qui, rappelons-le, est contraire au droit international et pourrait constituer un crime de guerre.
Et pas de répit sur les marchés au 38e jour de guerre. Le prix du baril de pétrole dépasse les 110 dollars. Si les pays de l'OPEP ont décidé d'augmenter pour la deuxième fois hier leur quota de production depuis le début du conflit, ça reste compliqué à la pompe. Avec 18% des stations-service en rupture de stock d'au moins un carburant, c'est 6 points de plus que vendredi dernier. Et si vous en trouvez, faut-il encore que son prix ne soit pas trop élevé? 2,10€ en moyenne le sans-plomb 98, selon le comparateur carbu.com, comptez 2,30€ pour le gazole. Des aides ciblées doivent être annoncées dans la semaine par le gouvernement. En attendant, il faut pallier au plus pressé. C'est le cas de ces chefs d'entreprise qui ont décidé d'accorder, Marion Dégas, un petit coup de pouce pour permettre à leurs salariés de travailler en toute sérénité.
Certains patrons ont opté pour le télétravail. C'est le cas de Romain Beck. Il y a deux semaines, les salariés de sa société de conseil ont appris qu'ils allaient bénéficier de 2 jours de télétravail par semaine contre 1 avant le début de la crise.
On a quand même été habitués au télétravail avec le Covid. Donc en tout cas, en termes d'organisation, tout était déjà établi. Donc ça n'a pas de conséquences.
Mais dans certains secteurs, télétravail impossible. Alors pour soutenir ces 64 salariés, Aymeric Brousseau, fabricant de chaussettes dans le Limousin, a décidé de leur verser une prime exceptionnel de 600€ pour le mois d'avril.
C'est une prime qui est quand même significative parce que c'est 600€ net pour chacun. Il y en a qui habitent à plus de 30 km, donc 30 km le matin, 30 km le soir, leur plein, ça se voit immédiatement.
D'autres mises sur le covoiturage, chez Michelin, c'est déjà une habitude pour beaucoup de salariés. Mais ces dernières semaines, le nombre de covoitureurs augmente, constate Serge Godefroy, directeur des sites tertiaires du fabricant de pneus.
Avec cette augmentation du coût du carburant, on a eu en mars 45 nouveaux inscrits, donc la tendance est à la hausse.
Et selon lui, c'est une économie de carburant d'environ 60€ pour chaque salarié pratiquant le covoiturage.
Et on vous attend évidemment au 32-16. Racontez-nous votre week-end de Pâques. Est-ce que vous avez galéré à trouver du carburant, que ce soit du sans-plomb ou du gasoil? Et une fois qu'on le trouve, on le trouve à quel prix? C'est aussi la question. Je rappelle qu'il y a la carte, le plein RMC BFM, carte interactive sur le site et l'application RMC qui vous permet de trouver le carburant le moins cher près de chez vous. Mais vous nous appelez au 32-16, bien sûr. Il est 7h04 sur RMC.
Nouveau coup dur pour le secteur de l'habillement français. Le chausseur Minelli a été placé en redressement judiciaire. C'était pas une première. Romain Houg, l'enseigne avait connu le même sort il y a un peu plus de 2 ans, sauvé à l'époque par 3 repreneurs.
Oui, l'entreprise française fondée en 1973 avait été placée en redressement judiciaire en septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Marseille, avant d'être donc sauvé en 2024, laissant sur le carreau près de 400 salariés. Ils sont encore un peu moins de 200 aujourd'hui et les résultats ne sont pas beaucoup plus reluisants. La marque a perdu 3,7 millions d'euros lors de son dernier exercice comptable 2024-2025. Une dizaine de boutiques reprises par les nouveaux propriétaires sont déficitaires. Minelli fait partie de cette longue liste d'entreprises de prêt-à-porter placées en redressement judiciaire ces 2 dernières années avec Claire, ZKKS, Denifer ou Hokkaidi, des marques qui souffrent de la concurrence ardue avec les sites asiatiques à très bas prix, comme par exemple le géant Shein.
Un psychiatre mis en examen à Reims, un homme de 51 ans soupçonné de 16 faits de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement sur des patientes. De nouvelles plaintes ont été déposées la semaine dernière. Toutes ces patientes ont depuis été contactées par les enquêteurs et selon vos informations, Maxime Clieruza du service de justice de RMC, il pourrait y avoir plusieurs dizaines de victimes supplémentaires dans d'autres départements.
Oui, car avant la Marne, ce psychiatre a exercé dans le Nord, l'Oise ainsi que l'Aisne. Ce sont donc plusieurs centaines de femmes qui doivent maintenant être contactées, car selon le procureur de la République, une majorité des 665 patientes de Reims dressent le même constat, des faits récurrents et très nombreux, des caresses dans le dos et sur les fesses, des questions déplacées de ce médecin sur leur sexualité qui allait jusqu'à leur demander d'imaginer des relations sexuelles avec lui. Une des patientes évoque même la prise d'un anxiolytique dans le cabinet du psychiatre, suivi d'un malaise. À son réveil, elle affirme avoir été violée, se pose donc désormais la question d'une potentielle soumission chimique, car l'homme est également soupçonné d'avoir prescrit à très forte dose anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs sans justification médicale. Le médecin, lui, nie tous les faits qui lui sont reprochés.
Les astronautes de la mission Artemis 2 sont entrés dans la sphère d'influence lunaire qui va leur permettre de faire le tour de la Lune. Aujourd'hui, c'est une première depuis la mission Apollo il y a plus de 50 ans. Sauf qu'ils iront encore plus loin, à 406 000 km de la Terre précisément. Jamais un humain n'est allé aussi loin. À ce moment-là, les communications seront coupées pendant une quarantaine de minutes. Ils pourront par la suite assister à une éclipse, puis au lever de la Terre qui apparaîtra comme un quartier de Lune.
Un lever de Terre.
Un lever de terre.
Ça, c'est quand même fascinant.
Ils vont voir un lever de terre. La photo prise à l'époque en 1972.
Et ils vont faire mieux maintenant. Parce que les appareils photo ont progressé. Allez, l'OM éjecté du podium de Ligue 1.
Ça vous fait rire? Battu 2-1 hier soir à Monaco. Les Marseillais reculent à la 4e place et se retrouvent plus que jamais menacés. Clément Brossard a seulement 6 journées de la fin du championnat.
Oui, hier soir, les Marseillais sont sortis du stade Louis II la tête basse. Après s'être montré trop passif défensivement, encaissant 2 buts en un quart d'heure, le latéral gauche Facundo Medina en est conscient.
Je suis un peu dégoûté. C'est que le mérite pas ce moment, mais on va pas lâcher. Il faut faire autocritique, surtout nous, défensivement. On peut pas faire cette prestation. Même si on a pas mal joué, on a créé beaucoup d'occasions et tout, il faut être efficace.
Car l'OM s'est créé bien plus d'opportunités, mais repart avec une défaite permettant à Monaco de revenir à sa hauteur et à Lille de prendre sa place. Sur le podium, l'attaquant Amine Gouiri promet une réaction.
Il reste ces matchs, on met tous les états d'âme de côté. On a peut Marseille, on n'a pas à douter, on a un point, donc c'est à nous de faire le job. On est un collectif et on a tous le même objectif, c'est de qualifier la Ligue des Champions.
Et Marseille y parviendra, assure l'entraîneur Habib Bey.
On a été à un moment donné chasseur, on est revenu, on a été chassé, on redevient de nouveau chasseur. Je n'ai aucun problème sur la croyance de mon équipe sur les 6 derniers matchs à aller chercher l'objectif, parce que même si on est dans une dynamique négative, le match de ce soir, dans le contenu, dans les opportunités, dans ce qu'on a été capable de créer, doit nous amener à avoir de la confiance.
Le faux pas sera interdit le week-end prochain contre Metz, dernier de Ligue 1.
Et la Champions Cup, la Coupe d'Europe de rugby avec un choc en quart de finale comme l'an dernier. Bordeaux-Bègles affrontera Toulouse. Ce sera dimanche prochain. Les Bordelais tenants du titre ont écrasé Leicester 64-14 hier et Toulon se déplacera sur la pelouse des Glasgow Warriors. Ce sera samedi.
Merci beaucoup Thibaut Texer. C'était le journal de 7h en direct sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et Julien est en ligne avec nous depuis le Nord, depuis Lille précisément. Bonjour Julien.
Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe, merci de me recevoir.
Soyez le bienvenu, bah, c'est normal de vous recevoir déjà. Vous êtes ici chez vous, Julien, vous bossez aujourd'hui, vous êtes ambulancier, je vois.
Eh ben, écoutez, je viens de terminer ma nuit là pour le coup, donc j'étais en train de manger.
Voilà, ambulancier, j'imagine mon cher Julien, que vous avez besoin de carburant pour rouler. Où est-ce qu'on en est? On parle de 18% de stations en France qui connaissent des pénuries sur au moins un carburant.
Mais j'ai envie de dire, ça serait peut-être 18% sur l'île. C'est affreux. C'est très, très compliqué de pouvoir se ravitailler sur l'île. Pour le coup, nous, ça devient vraiment une chasse au trésor, hein, pour trouver une station qui peut nous fournir en gasoil. Et comme vous l'avez dit si bien, hein, c'est vital. Hein,
pour vous avez dû tourner beaucoup.
Ouais, pas mal de temps. On a fait du bouche à oreille. On a essayé d'appeler des collègues ou autres pour savoir un peu où on pouvait se ravitailler au plus proche. Donc,
vous avez regardé l'appli RMC, Julien?
Alors, pour le coup, l'appeler RMC, non, j'y ai pas pensé.
C'est vrai. Vous le saurez maintenant. Non, mais c'est pas grave, vous le saurez maintenant.
Eh ben, c'est super, ça. C'est
toujours mais je le dis, hein, et puis on le rappelle souvent, mais on garantit pas que le carburant sera pas cher. On garantit que vous saurez où il y en a et que ce sera le moins cher du coin. Parce que du coup, pardonnez-moi, Julien, mais quand on galère pour en trouver, finalement, on le prend à n'importe quel prix.
Ben c'est ça, sauf que nous, après, on a des restrictions au niveau des stations. On ne peut pas aller se ravitailler non plus n'importe où parce qu'on travaille avec exclusivement la station Total. Ben oui. Donc voilà, donc c'est là la problématique, c'est que Total.
Ben merci
là,
Julien. Non, non, mais on va faire compliqué. Comme ça. Julien, voilà. À Lille, où que vous soyez sur le territoire, vous nous appelez au 3216. Vous téléchargez l'appli pour trouver les stations près de chez vous, mais vous nous dites surtout quelle est la situation ce matin. On sera avec un représentant des pétroliers à 7h40. J'ai besoin de lui parler. Dans un instant, on sera avec Alain Fontaine. Bonjour Alain Fontaine.
Bonjour.
Le chef du restaurant Le Mescurin va parler de l'autorisation des tickets resto le dimanche, y compris pour la grande distribution. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h12 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Pouvoir utiliser ces tickets restaurant le dimanche, ce sera peut-être bientôt possible d'ici à la fin de l'année. Bonjour Alain Fontaine.
Bonjour.
Vous êtes le chef du restaurant Le Mesturet, président de l'association des maîtres restaurateurs. Votre parti pris ce matin, c'est banco, ça va nous ramener des clients en fait.
Tout à fait. C'est ce projet de loi, enfin cette décision, va permettre à la marge de nous ramener des clients, puisque le dimanche, les gens, à part ceux qui étaient autorisés et qui travaillaient le samedi et dimanche, parce que le titre restaurant était utilisé aussi par les gens qui travaillent le dimanche, leurs employeurs.
Bien sûr, mais aujourd'hui, il est normalement pour la très grande majorité des gens,
pour la grande majorité,
calqué sur les jours de boulot, donc lundi, vendredi.
Tout à fait. Alors, ça va nous ramener à la marge. Alors, bien sûr, ils vont pouvoir l'utiliser toujours dans la grande distribution, mais à la marge, ça va nous ramener des clients qui, des fois par couple, ont deux cartes dématérialisées et vont pouvoir les utiliser à hauteur de 25 euros. Ils peuvent très bien aller dans un commerce, dans un restaurant et dépenser 50 euros mais sur l'addition.
Alors, je rappelle, cette annonce est celle de Serge Papin, qui est le ministre du Commerce et du Pouvoir d'Achat. La réforme des titres restaurants qui fera l'objet d'un texte d'ici à l'été. On l'attend, hein, ce texte, depuis un moment. Pouvoir d'achat, liberté, vos collègues restaurateurs, eux, sont vent debout. C'est fini le titre restaurant, c'est devenu un ticket alimentaire d'ici. Vous êtes fait un peu voler le magot par la grande distribution, non?
Alors, la finalité, oui, on s'est fait... Alors, l'argent a disparu, on parle de plusieurs centaines de millions qui ne vont pas dans les caisses des restaurateurs. Pour autant, on comprend bien qu'il y a une crise de pouvoir d'achat et que, quelque part, on peut pas non plus faire comme si cette crise de pouvoir d'achat n'existait pas. On va la voir avec le problème de l'essence, où va y avoir dans chaque ménage des choix budgétaires, remplir son réservoir.
Vous dites quoi ? En fait, je regardais dans le détail la grande distribution. On est sur des chiffres de fin 2024. La grande distribution qui captait en gros un tiers des dépenses de titres restaurant, 40% pour les restos classiques, et puis le reste pour les snacks, les boulangeries, etc. Vous dites qu'on s'est fait voler le magot, mais on peut pas se battre contre le pouvoir d'achat des gens, quoi.
Non, je crois que effectivement, ça serait indécent de dire que le titre restaurant aujourd'hui, après maintenant pratiquement 40 ans où il a été dévoyé de sa finalité, il faut penser que des commerces déjà de bouche le prenaient depuis 40 ans et que effectivement la crise de Covid a accéléré le système. Et aujourd'hui, on voit pas comment face à la population, on peut dire bah écoutez, non, ces 25 euros nous reviennent. Alors que des gens nourrissent leur famille avec ces 25 euros.
Ils font leur... Donc... Écoutez Nadia qui est en ligne avec nous à Nîmes dans le Gard justement. Bonjour Nadia.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue au 32-16 ce matin. Vous les utilisez pourquoi vos tickets resto vous ?
Alors moi c'est vrai, je les utilise essentiellement chez mon boucher. C'est vrai que je faisais pas mal de restos, mais j'en fais moins qu'avant, vraiment. Et c'est vrai aussi le dimanche, pourquoi pas ? C'est vrai que le dimanche on a souvent aussi la flemme de cuisiner. Ça peut être pas mal aussi d'avoir les tickets resto, qu'on puisse utiliser nos tickets resto ce jour-là.
Bah, pouvoir les utiliser, peut-être ramener des clients pour les restaurants. Alors tout vous disiez aussi, en plus, les grandes surfaces, pour la plupart, le dimanche, elles ferment assez tôt.
Elles ferment assez tôt et les courses, vous savez, se font beaucoup, beaucoup en semaine. Et donc je crois que c'est un avantage énorme qui... C'est un premier pas. Il faut pas bouder notre plaisir parce qu'effectivement, ils sont dans leur rôle, les syndicats, de vouloir récupérer le magot.
Les syndicats de la restauration.
Les syndicats de la restauration.
Ils
sont dans leur rôle. Mais moi, ce que je pense aujourd'hui, il faut qu'ils se battent, par exemple, pour quelque chose que l'on veut depuis nous le début, que j'ai annoncé d'ailleurs sur votre antenne il y a à peine un an, c'est qu'on déplafonne pour les restaurants. Vous voyez qu'on reste sur le plafond pour la grande distribution à 25 euros, mais qu'on déplafonne pour les restaurants et que quelqu'un qui a un solde de 100, 150 ou 200 euros, qui peut perdre de temps en temps si l'employeur ne fait pas faire la bascule par l'émetteur, il peut le perdre à la fin de l'année. C'est
vous
possible.
Dites à la fin de l'année, on peut se faire quand on a
un bien sûr,
sur la carte.
Déplafonnons, on a tout, on a perdu.
En fait, on a complètement dévoyé l'usage des tickets resto. À l'origine, je vais le rappeler côté syndicat, mais alors pas les syndicats de la profession, les syndicats des salariés. L'idée à l'origine du ticket resto, c'est quand même de pouvoir garantir à ceux qui travaillent de manger convenablement le midi quand on travaille.
À l'extérieur, quand vous n'avez pas de restaurant d'entreprise
dans votre... Il n'y a pas de cantine au boulot.
Tout à fait.
Bon, c'est pas fait pour aller, même si c'est très sympa, c'est pas fait pour aller déjeuner en famille le dimanche.
Au début, c'était... Alors... Effectivement, mais quand il y a eu le ticket, vous savez, le ticket papier, on voyait bien entendu dans les restaurants les gens payaient en titre restaurant papier. Aujourd'hui, avec le titre dématérialisé, c'est plus possible. Et donc, on a vu disparaître ça aussi, où les familles venaient avec des tickets papier, les dépenser dans le restaurant, et on les acceptait bien volontiers. Maintenant, avec le titre dématérialisé, c'est pas possible. Non, il faut vraiment se battre. Les syndicats doivent se battre pour le déplafonnement. La restauration.
Mathieu, je vais poser la question à Nagia. Si à la fin de l'année, est-ce que vous pourriez vous faire un petit resto si c'était déplafonné plutôt que d'aller chez le boucher, même si le boucher qui nous écoute.
Totalement. Non, mais totalement. J'apprécie me faire de bons restos. Mais c'est vrai que parfois, on est aussi un peu déçu. On se dit qu'on va se faire un bon resto. C'est basique. Il y a rien de spécial et ça coûte un peu cher aussi.
Ah bah ça, c'est l'autre combat d'Alain Fontaine. Je me permets. Pas tant sur le prix, mais sur la classification. Vous êtes à la tête de l'association des maîtres restaurateurs. Vous battez d'ailleurs pour que le bistrot français soit reconnu aussi, oui, à l'UNESCO. Je le rappelle. Vous êtes toujours ouvert aujourd'hui?
Ah bien sûr que je suis ouvert, évidemment.
Ouais. D'un mot, il nous reste assez peu de temps, mais pour nous faire saliver un plat de chez vous là aujourd'hui, qu'est-ce que...
Aujourd'hui, c'est l'agneau, hein, c'est l'agneau pascal. Et on a fait, comme le chocolat est un peu cher, en entrée, on a fait les œufs mimosa, qui est une entrée typique des bistrots. On a fait les œufs mimosa.
Les œufs mimosa, de l'agneau pascal, évidemment.
Alors, et puis le baba au rhum en dessert.
Bon, c'est pas férié pour vous aujourd'hui. Il y a près de 3 Français sur 4 qui veulent avoir le droit de travailler le 1er mai. Le résultat d'un sondage commandé par la Confédération des petites et moyennes entreprises, publié par nos confrères de la Tribune, fleuristes et boulangers. Vous avez suivi ce débat ces dernières années, qui n'ont pas le droit de travailler de faire travailler leurs salariés sous peine d'amende. Il faut libérer les jours fériés, Alain Mesturet.
Je crois qu'il faut...
Alain Fontaine, pardon, du Mesturet.
C'est possible. Il faut libérer un maximum la capacité d'entreprendre. En France, aujourd'hui, on est trop freiné par la capacité d'entreprendre. D'entreprendre pour les employés, d'entreprendre pour les employeurs. Il faut libérer la capacité d'entreprendre. Donc oui, les jours fériés, oui, donc le 1er mai, on peut fermer, on peut ouvrir.
Vous bossez en tout cas aujourd'hui.
Parce que devant, il y a des consommateurs qui sont dans l'attente de pouvoir consommer.
Eh ben, dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. On en reparle à 7h50 avec notre voix de droite du lundi, c'est Louis Sarkozy ce matin. Il faut laisser les gens bosser, nous dit-il. Merci Alain Fontaine. Je vous laisse retourner en cuisine.
Tout à fait.
Au Messuret, Alain Fontaine, restaurant. Et président de l'association des maîtres restaurateurs. Merci mille fois. Il est 7h19 sur RMC. Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Paola Ferrari. Bonjour Paola.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue sur RMC, bienvenue parmi nous.
Merci.
Des dizaines d'avions, des centaines de soldats américains et un sauvetage incroyable dans les montagnes iraniennes. Vous avez peut-être suivi ça ce week-end. L'armée américaine a récupéré l'aviateur qui avait disparu en vol.
Oui, vous connaissez le film Il faut sauver le soldat Ryan. Et bien, ce qui s'est passé en Iran, il ressemble furieusement. Je vous raconte ça dans une petite minute.
Et puis à 8h30, le face-à-face, Guillaume Daret reçoit l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes. Exactement sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 sur RMC, RMC Story. Bon réveil. Quand l'histoire éclaire notre actualité avec vous, Paola Purari, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Ce week-end, l'armée américaine a réussi à récupérer l'officier disparu dans le crash de son avion dans les montagnes iraniennes. Des moyens spectaculaires déployés pour une opération impressionnante pour respecter une loi qui n'a pas d'âge.
Oui Mathieu, et ce matin on va partir à la guerre, et sachez que depuis que je suis avec vous, depuis que j'ai rejoint les forces de votre radio, vous avez un commandement solide dans l'équipe. Je ne vous laisserai jamais tomber. On ne laisse jamais derrière soi un frère d'armes.
Et depuis quand, à quand remonte cette règle?
Eh bien ça remonte à la Grèce antique. 406 avant Jésus-Christ, les Athéniens viennent d'écraser Sparte aux Arginus, victoire totale. Sauf qu'après la bataille, eh bien une tempête se lève et les généraux vont renoncer à récupérer les naufragés. Mauvais calcul. À leur retour à Athènes, 6 seront exécutés, pas pour avoir perdu la bataille, je vous rappelle qu'ils l'avaient gagnée, mais pour avoir abandonné leurs hommes à la mer. Déjà à l'époque, c'est une faute impardonnable.
Et les Américains, eux, en ont fait une doctrine.
Oui, un code d'honneur même, on peut dire, et même des chefs-d'œuvre inspirés de la réalité. Alors si je vous dis 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, une famille perd 3 fils au combat en quelques jours. L'armée américaine décide alors d'envoyer une unité entière pour récupérer le 4e, le dernier, quelque part dans la Normandie en feu. feu, vous me répondez.
Il faut sauver le soldat Ryan.
Dans le mille, signé par le grand Spielberg, évidemment. Alors, le film est un peu romancé, hein, je vous l'accorde. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la directive existe vraiment. On l'appelle la Soul Survivor Policy. Si tous les fils d'une même famille tombent au combat, eh bien, le dernier est rapatrié d'office la vie d'un homme contre une unité entière. Et en 1974, eh bien, l'armée va aller encore plus loin. Elle en fait un serment. Elle l'inscrit dans ce qu'on appelle la Ranger Creed, la Bible des Rangers, l'élite de l'infanterie américaine. La dernière phrase est sans ambiguïté, Mathieu, quatre mots devenus un cri de guerre, no men left behind.
Alors, ça a donné des héros légendaires.
On pense tous à la Bosnie en 1995, Scott O'Grady. Hein, son F-16 est abattu par un missile au-dessus de la montagne. Il se retrouve seul, cerné par les forces ennemies qui ratissent les bois. 6 jours sans ravitaillement, une éponge pour récupérer de l'eau, des escargots en guise de repas, et puis 2 hélicoptères Marines qui fondent sur la zone en plein jour et l'exfiltre en 5 petites minutes, et qui l'accueille en grande pompe à son retour. Eh bien, c'est Bill Clinton en personne. La photo va évidemment faire le tour du monde, l'image reste, mais l'homme passe.
Et on sait tous, d'ailleurs, Bill Clinton bien sûr, mais ce week-end encore, l'image, c'est une arme.
Mais l'image, c'est une arme redoutable, Mathieu. L'armée américaine en joue des deux côtés. Alors, il y a évidemment les images qu'on cache. Sous Bush père, pendant la première guerre d'Irak, interdiction totale de photographier les cercueils à la base de Dover. Des centaines de rapatriements dans le silence et le noir, parce qu'une rangée de drapeaux américains sur des boîtes noires, ça peut retourner une opinion publique. Et puis, il y a les images qu'on exhibe, évidemment, qu'on propulse, un colonel vivant, secouru au cœur du territoire ennemi à la barbe des Iraniens, et Trump qui l'annonce en lettres capitales sur son réseau Truth Social. Ce n'est pas un communiqué, c'est quasiment une bande-annonce. Ah,
vous pensez que ce qui s'est passé ce week-end, là, Hollywood va s'en emparer ?
Ah bah, je suis prête à faire des paris. Là, en ce moment même, tout de suite, à Los Angeles, il y a des gens qui boivent du café froid et qui sont en train d'écrire des titres sur des ordinateurs comme 48 heures en Iran, vol de nuit, l'homme que Téhéran voulait, opération colonel. Pas besoin d'attendre la fin de la guerre. L'Amérique ne laisse jamais un homme derrière elle. Elle ne laisse jamais non plus une bonne histoire sans écran. Les deux font presque partie du manuel.
Ouais, c'est quand l'histoire éclaire l'actualité. Et puis parfois, c'est quand on croise la réalité et la fiction aussi. Paola Purari, merci beaucoup.
Merci.
Une chronique à réécouter sur le podcast, sur l'application RMC. Bien entendu, il est 7h24.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud Demanche.
Bonjour.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est l'ancien commissaire européen Thierry Breton.
Eh oui, mais ils sont gâtés nos auditeurs. Une bonne interview de Thierry Breton dès 8h30. Ça, c'est un lundi de Pâques qui commence bien. Bande de petits gourmands, va. Donc voilà, même un jour férié, Guillaume Darrey travaille. Il n'est pas en train de dormir à la maison. À la maison Darrey. On attaque fort.
Ah ouais.
J'ai bossé tout le week-end de Pâques. Après, je dis pas que Guillaume ne va pas faire l'interview en pantoufles et pantalons de pyjama. On verra que la veste et la cravate, ça reste des demi-vacances. D'ailleurs, on a la chance, nous, d'avoir un vrai bon invité, Thierry Breton, en ce lundi de Pâques. Parce que normalement, le lundi de Pâques, c'est un peu galère pour les programmateurs. Je suis sûr que Nicolas Dupont-Aignan est invité quelque part ce matin. France Info, et ce matin, nous avons la chance de recevoir le maire de Hyères et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. De toute façon, Florian Philippot n'a pas pu venir. On l'a eu en premier. Alors, j'ai regardé l'actu de Thierry Breton. Je me suis régalé. C'était du pur délire. Par exemple, Mathieu, accrochez-vous à vos bretelles.
Je suis accroché.
Thierry Breton, donc ancien commissaire européen, propose d'interdire de voter un budget avec un déficit supérieur à 1% du PIB.
Tadam ! C'est le lundi de Pâques ou le 1er avril ?
Non mais jusqu'à présent, je vous ai embarqué dans le rêve. Alors jusqu'à présent, on a eu droit à un déficit de 3%. Donc c'est pour ça qu'on est à 5. Donc là, le 1%, autant vous dire, on va le respecter autant que les 50 km/h sur le périph. Que vous demandez à nous d'avoir 1% de déficit, c'est un peu comme demander à Gérard Larcher de devenir vegan ou à Francis Huster de moins se regarder dans la glace, quoi. S'il se présente à la présidentielle, ça va être sympa son programme à Thierry Breton. Il y aura des belles coupes dans le budget. Alors si vous êtes au chômage, voilà, les indemnités seront ramenées à 3 semaines. Ce sera plus court. Et si vous avez un cancer, la chimio n'est pas remboursée, mais vous avez le droit d'acheter une perruque avec vos tickets restaurants. Merci Thierry. Donc voilà, c'est notre
ambiance.
C'est le lundi de Pâques. C'est la fête chrétienne. Alors d'ailleurs, vous avez vu, le pape a renoué avec certaines traditions. Il est allé laver des pieds de prêtres. On lave plus les pieds des gens, c'est dommage. Ça se les gens qui nous confessent comme ça, qui recueillent nos sentiments. C'est dommage. Enfin, il y a Thierry Breton là qui vient à 8h30 se faire interroger.
Il va lui laver les pieds.
Ce serait classe que il enlève les godasses de Guillaume et qu'il lui lave les pieds en disant je vous demande l'absolution, monsieur Darret. Oui, j'ai pas un bon bilan pour mes sociétés d'un point de vue comptable, j'étais dans l'erreur. Et Guillaume dirait ouais, frotte. Allez, frotte. Oublie pas entre les orteils. Tu me feras une petite pédicure après. Ça ferait de l'audience. Les gens veulent voir ça.
Il se passerait
quelque
chose.
Pas, voilà, c'est dommage. Sauf sur CNews. Mais là, c'est l'inverse. C'est Christine Kelly qui lave les pieds des politiques avec sa langue, ceci dit. C'est balèze. Allez, rendez-vous avec Thierry Breton à 8h30, c'est-à-dire 8h30.
Il y a une promesse. Arnaud Demange, qu'on retrouve tout à l'heure en podcast sur l'application RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
L'heure d'un nouveau journal avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le printemps en fin de retour, Charlène le disait à l'instant, le thermomètre va frôler les 30 degrés dans le sud-ouest cet après-midi. Le soleil lui brillera sur toute la France, alors pas de jaloux. Donald Trump accorde 24 heures supplémentaires à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Hormuz, mais sans réponse positive d'ici demain soir, le président américain menace de tout faire sauter. Tadej Pogacar s'impose sur le Tour des Flandres et fait un pas de plus vers l'exploit que serait celui de remporter les 5 courses majeures cette année.
Alors Charlène vient de l'évoquer, presque le retour du printemps, presque de l'été, finalement. En tout cas, on a un lundi au soleil aujourd'hui.
Et oui, et on va pouvoir le passer à chercher des œufs de Pâques, par exemple, dans le sud-ouest. Il faudra toutefois se presser un petit peu, sinon le chocolat va fondre jusqu'à 29 degrés, attendu cet après-midi. Moins chaud, mais tout autant ensoleillé, la capitale n'est pas en reste. À Paris, les promeneurs ressortent les lunettes de soleil, Caroline Renaud.
Un rayon de soleil et quelques degrés de plus, c'est suffisant pour ravir Anastasia et Lise.
Un bout de graissin, la tapenade.
Attends, donne-la-moi.
Et de la bonne compagnie.
Allez hop.
On reprend un peu le sourire.
Bon, l'accessoire du jour, c'est la lunette en fait. Le plan, c'était promenade et se poser au soleil.
Quelques mètres plus loin, Mélissa, elle, trinque avec son mari.
Santé.
Santé.
Sur leur nappe de pique-nique, une bouteille de vin blanc.
Les petites olives, le petit saucisson, très bien.
Et l'impression d'avoir dit adieu à la pluie.
Profiter de la lumière, les arbres en fleurs, sortir, de revoir du monde. Voilà, on peut revivre.
C'est aussi ce que pense Yannick, un paquet de chips ouvert pour l'occasion.
Enfin, la lumière, on sort un peu de chez nous. J'arrête d'hiberner parce qu'à partir d'octobre jusqu'au février, mars, j'arrête de sortir, je fais plus la fête. Et là, ça y est, c'est reparti.
Mais à ses côtés, Lorraine, l'œil sur la météo, ne laisse pas encore tomber l'écharpe.
Combien de degrés fait-il ? 16 degrés ? Le soleil, il donne pas assez. Hein.
Elle a déjà enlevé une couche, mais pour la crème solaire, ce sera quand on aura franchi les 20 degrés, dit-elle. Et bonne nouvelle, ce sera le cas dès demain à Paris.
Donald Trump repousse son ultimatum de 24 heures et menace de nouveau l'Iran. Éloignez les oreilles innocentes. Le président américain ne mâche pas ses mots. Je cite, ouvrez le putain de Détroit, espèce de taré. Les Iraniens ont donc jusqu'à demain soir 20 heures, heure de Washington. Chez nous, il sera alors 2 heures du matin mercredi pour ouvrir ce Détroit d'Hormuz. Sinon, Donald Trump fera tout sauter. Voilà ce qu'il a écrit sur son réseau social hier soir, en profitant aussi pour se féliciter du sauvetage du pilote américain en Iran. Comment l'opération s'est-elle déroulée, Célestin Bougère?
Réfugié dans les montagnes du sud-ouest de l'Iran, l'aviateur a réussi à se cacher de l'armée iranienne retranchée dans une crevasse. La capture du pilote américain aurait été une catastrophe politique pour les États-Unis, d'après le général Philippe Sidos, ancien chef du bureau de liaison de la FINUL.
Si les Iraniens l'avaient récupéré, c'était un prestige pour eux, un moyen de pression. C'était un officier supérieur de haut niveau. Pour les Américains, ça aurait été un échec parce que un prisonnier, ça donne une image désastreuse.
L'armée iranienne a annoncé de son côté avoir détruit 2 hélicoptères et 2 avions de transport américain. Donald Trump s'est lui félicité d'une opération qu'il qualifie d'une des plus audacieuses de l'histoire. Mais pour le général Philippe Sidos, il faut se méfier de ce récit triomphant de Washington.
Il faut se méfier de l'enthousiasme, de l'exaltation qu'il y a autour de cette récupération. Ça se termine très bien pour les Américains. Mais néanmoins, attention, c'est une mission, c'est un fait de guerre. Parmi d'autres, le président Trump n'a pas montré aujourd'hui qu'il avait gardé la tête froide. Et dans une situation militaire, il faut toujours garder la tête froide.
Donald Trump a d'ailleurs prévu de raconter les détails de cette opération lors d'une conférence de presse ce soir dans le bureau ovale en compagnie de représentants de l'armée américaine.
Ouvrez le putain de Détroit, espèce de taré. Enfin, franchement, venant d'un président des États-Unis, je sais pas, ça vous interpelle peut-être, hein, vous souhaitez réagir sur le WhatsApp RMC, vous le pouvez au 0612 424 424 sur cette façon de s'exprimer du président américain. 7h34 sur RMC, un psychiatre du nord de la France soupçonné de 16 viols et agressions sexuelles sur des patientes.
Oui, il a été placé cette semaine en mise en examen cette semaine à Reims pour des faits qui se seraient déroulés dans le Nord, l'Oise et l'Aisne. Et RMC vous le révèle ce matin, cet homme homme de 51 ans s'en est vraisemblablement pris à plusieurs dizaines de victimes supplémentaires dans d'autres départements. Le médecin nie tous les faits qui lui sont reprochés. Un chargeur de téléphone défectueux à l'origine d'un incendie à Paris. Hier midi, 10 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Alfred Orange, le feu a pris au rez-de-chaussée d'un immeuble du 12e arrondissement.
Oui, d'après plusieurs sources à RMC, le feu serait parti d'un téléphone portable en train de charger. Téléphone qui, selon nos confrères du Parisien, aurait incendié le matelas sur lequel il était posé. Les flammes se seraient ensuite propagées dans deux appartements au rez-de-chaussée. Au même moment, deux policiers en patrouille dans la rue sont alertés par les fumées qui sortent des fenêtres. Les fonctionnaires s'engouffrent alors immédiatement dans l'immeuble, prennent l'escalier encore préservé des flammes et montent dans les étages pour évacuer les habitants. Une quinzaine de résidents sont finalement secourus avant que les pompiers, arrivés rapidement sur place, parviennent à éteindre l'incendie.
Ils viennent d'amorcer la dernière ligne droite avant leur vol autour de la Lune. Les astronautes de la mission Artemis 2 sont entrés tôt ce matin dans la sphère lunaire. Ils ont pu observer directement la face cachée du satellite terrestre. Ça n'était encore jamais arrivé. Monaco frappe un grand coup dans la course au podium de Ligue 1 en battant Marseille 2-1 hier soir en clôture de la 28e journée de championnat. L'OM désormais au pied du podium, à la 4e place, à égalité de points avec Monaco. Donc le PSG toujours leader devant Lens et Lille. Après le Milan-San Remo, Tadej Pogacar a remporté le Tour des Flandres hier. Le cycliste slovène poursuit sa quête des 5 monuments de la saison, Maria Azé.
Plus rien n'arrête Tadej Pogacar.
Je suis super heureux. C'est une journée incroyable, un début de saison parfait. Mes concurrents ont couru avec le cœur. C'était une super course.
Face à un tel coureur, difficile pour ses adversaires d'exister. Christophe Laporte, premier Français du Tour des Flandres.
C'est le plus fort, c'est nettement le plus fort. Donc il n'y a pas de tactique qui rentre en jeu quand c'est comme ça. C'est juste les jambes qui parlent et ceux qui peuvent, ils s'accrochent. Et au bout d'un moment, tout le monde craque.
Avec 2 des 5 monuments déjà en poche, le Slovène est bien parti pour remporter les 5 monuments cette saison, ce que personne n'a jamais fait. Son manager Mauro Gianetti.
Chaque jour c'est différent, chaque course c'est différent, les adversaires ils sont pas loin, donc chaque course a son histoire et il faut la courir d'abord.
Car pour faire le grand chelem, Tadej Pogacar devra surtout s'imposer sur Paris-Roubaix, seul monument qui lui échappe encore. Mathieu Van Der Poel, triple vainqueur de l'Enfer du Nord.
Il a déjà montré l'année passée que c'est aussi son terrain, donc il peut gagner partout comme j'ai déjà dit. Ouais, je sais quoi faire.
Pour conserver sa couronne, le petit-fils de Raymond Poulidor devra résister aux attaques du Slovène sur les pavé dimanche.
Le quintet qui se déroule à l'hippodrome de Compiègne à 15h15.
Et le pronostic de Dimitri Blanc-Loeil de la Dream Team des courses RMC, son favori, c'est le 6 Priam du Ménil et son outsider, le 11 Flanker.
Merci Rachel Sadodine, il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on accueille Lounès qui est au 32-16 avec nous depuis les Claës-sous-Bois, c'est dans les Yvelines. Bonjour Lounès.
Bonjour Mathieu, comment allez-vous?
Mathieu, Lounès, il n'y a pas de problème. Vous êtes aide-soignant?
Oui.
Et vous bossez aujourd'hui, hein, les jours fériés,
oui.
Vous ne connaissez pas?
Non, je travaille aujourd'hui, je prends mon service à 9h,
ouais.
Jusqu'à mercredi matin 9h.
Jusqu'à mercredi matin 9h, ouais, et vous nous avez dit aussi, vous avez précisé aussi, Lounès, que vous allez travailler le 1er mai.
Eh oui, j'ai mon planning, oui, je ferai 9-21.
Et ça vous va? Parce qu'on va avoir le débat.
Oui, ça ne me pose pas de problème de travailler.
Vous êtes mieux payé.
Alors oui, le 1er mai, moi je suis payé double.
Double?
Ouais. Donc c'est pas négligeable, hein, les aînés.
Et aujourd'hui non, par contre.
Alors aujourd'hui si, comme c'est férié, on a une prime de 3 heures. Au lieu d'être payé sur 12 heures, on est payé 15 heures.
D'accord. Il y a quand même un intérêt pour vous, Lounès, à travailler les jours fériés. On va avoir ce débat, puisqu'alors on a ce sondage de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui nous apprend que 3 Français sur 4 aimeraient avoir la liberté de travailler le 1er mai. On a ce débat chaque année. Les boulangers fleuristes qui ne sont pas autorisés à faire travailler leurs salariés. On sera avec Louis Sarkozy à 7h50 tout à l'heure. Notre voix de droite du lundi. Louis qui nous dira laisser les Français bosser tout à l'heure. Merci Lounès de votre appel. Hein. Merci de votre appel au 32-16. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire le plein ce week-end? Près d'une station sur 5 en rupture d'au moins un carburant. Est-ce qu'on risque la pénurie? Dans moins de 2 minutes, on est avec le représentant des pétroliers et des raffineurs en direct sur RMC. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous et bienvenue sur RMC et RMC Story. Il est 7h41. Est-ce que vous avez fait le plein ce week-end? Est-ce que vous avez trouvé du carburant? Combien l'avez-vous payé? Est-ce que vous avez réduit votre trajet? C'est possible aussi. Souvent, le lundi de Pâques, dans les matinales, on est avec un chocolatier ou un religieux. Ce matin, on reçoit Olivier Gantois. Vous êtes le président de l'Union française des industries pétrolières. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en direct en studio. Vous représentez les grands pétroliers et raffineurs, Total, BP, Shell, etc. La question à la une, au sortir de ce week-end de Pâques, c'est celle des pénuries, des tensions dans les stations-service. Qu'en est-il ce matin? Est-ce que de nombreuses stations annoncent des fermetures de pompes?
Alors, on annonce à peu près une station sur cinq dans laquelle il manque au moins un des carburants. Et je dois dire que c'est concentré particulièrement sur un réseau de stations-service, un de mes adhérents, qui a pris des mesures pour plafonner les prix, on s'en souviendra,
Total,
depuis quelques temps.
Total, qui plafonne sans plomb et le gasoil.
Et du coup, ça a exacerbé le phénomène d'achat dans ces stations-service, et donc ce sont plutôt ces stations-service qui sont en rupture aujourd'hui.
Et c'était une question d'approvisionnement. Sur le week-end de Pâques, est-ce que les camions, normalement, ils ne pouvaient pas circuler le dimanche et jour férié? Il y a eu des dérogations? Il y a eu des choses mises en place?
Il y a eu des demandes de dérogation ici et là, qui ont, à ma connaissance, été satisfaites. Les pouvoirs publics étant très réactifs en cette période. Mais il faut savoir que pour faire circuler un camion, il faut non seulement un conducteur qui conduit le camion, mais aussi ouvrir le dépôt de carburant. Donc c'est toute une logistique à mettre en place qui normalement est fermée les jours fériés.
Et sur le côté pénurie, etc., vous dites que ça va aller revenir au calme en sortant du week-end férié?
Alors si j'ose dire, dès demain, ça va s'arranger, ce qui va pas forcément arranger les gens qui reviennent, mais normalement, s'ils cherchent bien, ils vont trouver une station dans laquelle il y a encore le carburant qu'ils cherchent.
Et c'est presque le trio de questions pour démarrer cette interview. On parlait de vendredi d'un gasoil qui pourrait prochainement atteindre les 3 euros. C'est quelque chose que vous avez en ligne de mire, vous ?
Ah, je fais aucune prédiction sur l'augmentation des prix. Pourquoi ? Parce que depuis le début des opérations militaires en Iran, donc le 28 février, le prix du diesel, donc du gasoil, a augmenté déjà de 50 centimes par litre. Donc en moyenne sur la France, il est cette semaine à 2,20 euros le litre, ce qui est un prix très élevé. Il n'y a aucune raison pour laquelle les prix augmenteraient davantage, d'autant qu'on parle maintenant de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, ce qui aura, si ça a vraiment lieu, pour effet de détendre les prix.
Alors, de détendre les prix, sauf qu'il y a des sites énergétiques qui étaient frappés dans le Golfe ces dernières heures. Il y a l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui prévient que les réparations des installations énergétiques seront coûteuses, demanderont beaucoup de temps. Ça donne un peu le sentiment quand même qu'on va continuer à récolter les fruits de cette tempête, si j'ose dire.
Je dirais que là, en tout cas nous, depuis la France, on est un peu dans le brouillard pour savoir exactement quelle est l'étendue des dégâts de ces fameuses attaques sur des installations pétrolières ou gazières. Il n'y a que quand un audit précis aura été fait qu'on saura combien de temps il faut pour les remettre en service. Et quel est le volume d'installations qui prendra plus de temps pour être mis en service. N'oublions pas qu'on a commencé l'année 2026 avec un excédent de production de pétrole brut de 5 à 6 millions de barils par jour. Donc une production largement excédentaire. Ça va au moins compenser une partie de ces pertes de production.
On nous dit que les Français roulent moins, qu'ils réduisent les déplacements, qu'ils roulent moins vite aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez sur le volume des ventes ?
Non, et on ne le constatera pas d'ailleurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la demande de carburant routier est, comme on dit dans notre jargon, inélastique. C'est-à-dire que quand le prix monte, elle baisse pas. Quand le prix baisse, elle ne monte pas. Elle est très stable. Et par exemple, sur le mois de mars, on estime que la demande réelle aura été de 1% supérieure à mars 2025. C'est-à-dire quasiment
supérieur.
Rien. Oui.
D'accord.
Donc on est au même niveau.
Non, mais ça répond à la question du manque à gagner de l'État sur la fiscalité, etc. On a eu ces débats-là. C'est pour ça que c'est important. Vous dites, on constate pas de baisse de la consommation de notre côté.
Non.
Quand on va au boulot, on doit aller au boulot, quoi. Après, certains s'organisent, télétravail, de rouler moins vite, etc. Mais c'est à la marge, c'est ça que vous dites ?
Oui, non seulement en effet parce que les gens ont leur lieu d'habitation, lieu de travail, le transport routier de marchandises séparé, les usines elles n'ont pas bougé parce que le prix du gaz a monté. Et même s'agissant des déplacements de loisirs, la plupart des gens vont maintenir leurs déplacements de loisirs malgré la hausse du prix du gazoil.
Bon, 5 pays de l'Union européenne demandent à la Commission européenne de taxer les super-profits des pétroliers. Les pétroliers, ce sont ces entreprises que vous représentez. Comme ils le sous-entendent, je vais les citer, hein, ces pays européens, est-ce que vous tirez profit des conséquences de la guerre au risque de faire payer le grand public ?
Alors en tout cas, ceux de nos adhérents qui sont présents dans ce qu'on appelle l'amont pétrolier, c'est-à-dire l'extraction de pétrole dans les pays producteurs, leurs revenus vont augmenter en proportion de l'augmentation du prix du baril. Je rappelle que le prix du baril a monté de 40 dollars puisqu'il était à 70 dollars au début des opérations militaires. Il est aujourd'hui à 110. Donc, le prix du baril a monté. Les revenus de ces entreprises ont monté. Je rappelle que au Moyen-Orient, vous avez entre 85 et 95% de ces revenus qui vont aux pays producteurs. Donc une petite part va rester chez nos adhérents.
Non, vous dites effectivement, on suit le cours du pétrole, les profits vont augmenter en fonction du cours du baril. Si je vous suis bien, est-ce qu'il faut faire comme en 2022, une taxe d'urgence similaire avait été mise en place pour faire face à la flambée des prix de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Est-ce qu'il faut taxer donc ces surprofits, superprofits, appelez-les comme vous voulez, de vos adhérents?
Ah, c'est une mauvaise idée, je vous surprendrai pas en disant ça, non seulement parce que on trouve qu'il y a aucune raison pour qu'elle soit taxée, mais aussi, surtout, parce que ces profits sont réalisés en dehors de la France et même en dehors de l'Europe. Et on a constaté, lorsque ces taxes avaient été mises en place, que les revenus de ces taxes avaient été relativement faibles, puisque les pays qui les décrètent ne peuvent pas aller taxer des revenus qui ont lieu à l'autre bout du monde.
Oui, d'ailleurs, cette taxe dont on parlait pour 2022 n'avait pas empêché les géants pétroliers mondiaux d'empocher 180 milliards de dollars de bénéfices en 2022.
Oh, je me souviens pas, mais ça m'étonnerait pas que vous ayez raison.
Voilà, tout est normal dans le meilleur des mondes, si je vous suis bien. Vous comprenez que ce soit choquant pour les gens qui sont en train en ce moment de se saigner pour le litre de gaz?
Oui, je comprends que ça les choque, mais la plupart de ces revenus sont réinvestis pour maintenir le niveau de production. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment, pourquoi est-ce que depuis le 28 février, alors que le détroit d'Ormuz est bloqué, donc 20% des approvisionnements mondiaux sont bloqués, les gens continuent à trouver du carburant à la pompe? Parce que nous faisons ce qu'il faut pour approvisionner non seulement en pétrole brut, mais aussi en produits finis, notamment en carburant, dans les stations-service.
Alors nous, je rappelle que vous représentez les grands pétroliers. Nous, il y a peut-être Total derrière notamment. Au début de la guerre, Total Energy, ça c'est une accusation du patron d'Intermarché sur la base d'informations du Financial Times. Total aurait acheté quelques 70 cargaisons de pétrole, l'équivalent de 35 millions de barils, par le seul chemin possible pour le brut, en évitant le détroit d'Ormuz, en passant par les Émirats, un pipeline, et le sud d'Oman, en contournant le détroit d'Ormuz. Une opération de trading, de spéculation à plus d'un milliard de dollars, disent le Financial Times, de bénéfices en quelques semaines. Total gagne un milliard de dollars en spéculant sur le pétrole qui sort du Moyen-Orient.
Ah là, si vous avez une question sur Total, il faut leur poser. J'imagine qu'ils ont répondu, ou sinon qu'il faudra qu'ils répondent sur cette question-là. J'ai pas de commentaire.
Vous n'avez pas de commentaire, mais Total ne nie pas non plus ce procédé. Est-ce que, je vais vous poser une question, vous qui connaissez très bien les marchés, en achetant 35 millions de barils, plus vaste opération jamais réalisée, on fait monter le cours, non?
Ah, je peux pas commenter sur cette opération, je la connais même pas. Donc là, je ferai pas de spéculation là-dessus.
Vous ne voulez pas commenter cette information du Financial Times et cette accusation très grave d'ailleurs d'un distributeur?
Oui, mais de demander à l'entreprise en question de donner des éléments de réponse, c'est pas mon rôle.
Élise, on a pas mal de messages ce matin sur la question des prix des carburants sur le WhatsApp RMC.
Ouais, on a Julien qui nous écrit 1,93€ hier à l'Intermarché du Chazet d'Azergues dans le Rhône. Nous avons aussi Greg sur le samplon 95 à Ribeauvillé dans le Haut-Rhin qui nous dit qu'on était autour des 1,95€ et puis des pénuries, hein, on le disait, une station sur cinq qui manque d'au moins un carburant. Christian l'a constaté hier soir, certaines stations étaient à sec, dit-il, et grâce à l'application RMC, il a pu trouver du carburant et le moins cher près de chez lui. On rappelle cette petite astuce qui peut être utile en ce retour de lundi de Pâques.
Évidemment, l'application RMC et nos auditeurs qui confirment cette information que vous précisiez ce matin, rupture dans une station sur cinq sur un carburant au moins. Olivier Gantois, merci beaucoup. Le diesel qui a pris 50 centimes par litre depuis le début de la guerre. Et puis une taxe sur les super profits, mauvaise idée, dites-vous, en rappelant que ces profits sont réalisés hors de l'Union européenne. Merci Olivier Gantois. Merci d'être venu répondre à nos questions en direct, président de l'Union française des industries pétrolières. Dans un instant, la voix de droite d'RMC, comme tous les lundis, on est avec Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Mathieu.
Nous sommes le lundi de Pâques et vous travaillez aujourd'hui pour vous. Il faut même laisser les Français bosser le 1er mai.
Et bien sûr qu'il faut laisser les gens bosser, pas seulement les fleuristes et les boulangers, mais tous les Français. Dieu sait que le pays en a besoin.
A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h52, le bonus avec vous Élise et les Rolling Stones bientôt de retour.
C'est la question ce matin après la découverte dans les rues de Londres d'une mystérieuse campagne d'affichage au nom des cockroaches, les cafards en français, pas de logo, juste un QR code qui mène à un site où l'on peut lire cette question: Who the fuck are the cockroaches? Sur une affiche non pas peinte en noir,
Mais en rose, rose flashy. Et si le monde s'affole, c'est que le nom des Cockroaches, eh bien, c'est celui que prenaient les Stones dans les années 70 pour donner des concerts incognito. L'un d'eux est d'ailleurs devenu mythique, celui dans un petit club de Toronto au Canada en 77. Sur le site, on retrouve un graphisme très similaire à celui d'un célèbre t-shirt de Keith Richards. Et on retrouve aussi les mentions légales qui renvoient vers leur maison de disques Universal.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h52, la voix de droite d'RMC, c'est vous, Louis Sarkozy. Rebonjour Louis.
Rebonjour monsieur.
Près de 3 Français sur 4 qui veulent pouvoir bosser le 1er mai, c'est le résultat d'un sondage commandé par la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, pour la Tribune dimanche. Fleuristes et boulangers n'ont pas le droit de faire travailler leurs salariés sous peine d'amende. On a ce débat régulièrement sur RMC. Vous, Louis, ça vous révolte?
Mathieu, j'aime mon pays. Je l'aime profondément. Mais parfois, il est l'hôte d'une bêtise, d'un non-sens stratosphérique. Nous sommes en 2026 et l'État français vous interdit physiquement et juridiquement de gagner votre vie une journée par an, même si vous le voulez, même si vos employés sont d'accord, même si vos clients le demandent, même si le pays en a besoin. Mais c'est désespérant.
Mais ce jour férié, c'est une conquête sociale. Et c'est, par ailleurs, un jour férié historique.
Mais quelle importance, Mathieu. Regardez ce qui arrive à nos artisans. L'année dernière, en Vendée, 5 boulangeries ont été raidées par l'inspection du travail comme s'il s'agissait de repères de trafiquants. Les points de deal, on n'y touche pas, mais le vendeur de pain, le 1er mai, mobilise des dizaines de fonctionnaires.
Le point de deal, on n'y touche pas, mais on ferme les boulangers, quoi. Les inspecteurs, ils font qu'appliquer la loi, faut le dire quand même.
Oui, et malheureusement, la loi française a ici réussi l'exploit d'être orwellienne et kafkaïenne à la fois. Orwellienne, car travailler vous vaut de vous voir infliger 750 euros d'amende par salarié simplement parce qu'un client veut son croissant et que vous avez l'audace de lui vendre. Kafkaïenne, parce que l'absurdité réglementaire et le zèle bureaucratique se marient ici pour maudire le bon sens. L'inspection du travail n'a désormais rien à envier aux automates autoritaires de 1984 et du verdict.
Les syndicats disent que le volontariat n'existe pas, que c'est une pression du patron.
Oui, c'est l'insulte suprême à l'intelligence des Français. Les 18-24 ans sont favorables à 70% à cette liberté. Et pour tous, ils ne sont pas opprimés. Ils sont simplement lucides que les syndicats, pour une fois, les écoutent. Ils voient bien que la France est en train de devenir le parc d'attraction de la paresse en Europe.
Vous exagérez, nous sommes productifs, Louis.
Les chiffres ne mentent pas, cher Mathieu. Pendant que la moyenne européenne culmine à 1784 heures par an, le salarié français à temps complet plafonne à 1664 heures. C'est un gouffre de 120 heures par an, soit 3 semaines de travail, qui nous sépare de nos voisins. La France se classe à la 25e place sur 27 au sein de l'Union européenne pour la durée de travail des salariés à temps complet. Et malgré cette nécessité absolue, malgré le fait que notre modèle social dépende entièrement de ce travail pour être financé, l'État français nous en empêche? Mais comprenez-vous la folie de cette histoire?
D'ailleurs, un projet de loi va être étudié ce vendredi à l'Assemblée pour permettre aux fleuristes et aux boulangers de rester ouverts le 1er mai. Mais pour vous, il faut aller plus loin.
Mais bien évidemment qu'il faut aller plus loin. Laissez les gens bosser. Mais laissez les gens bosser. Laissez les gens libres. Tous les gens, pas que les fleuristes et les boulangers. Qu'il y ait un jour férié, aucun problème. Mais si on souhaite rester ouvert, si on a besoin de plus d'argent pour nourrir sa famille, si on veut s'enrichir, si passer la journée chez soi n'est pas l'étendue de nos ambitions, mais laissez les gens bosser. Et puis définançons ces brigades de repos forcé qui traque le travailleur comme un criminel. Je vous assure qu'on peut sans grand effort, vous et moi, ce matin, trouver une meilleure utilisation pour l'argent des Français.
Vous êtes très dur avec le modèle français ce matin.
Non, Mathieu, c'est l'État qui est dur avec les entrepreneurs. Je suis du côté de la survie. La survie pour les petites et moyennes entreprises. La survie d'un modèle social. La survie de la liberté en France, envers et contre l'État lui-même dans son absurdité, s'il le faut. Laissez les boulangers pétrir, laissez les fleuristes vendre et surtout, cessons cette infantilisation constante de nos concitoyens. Faites confiance aux Français, je vous en supplie. Ils en valent la peine.
Pour vous, il faut que ce soit férié pour les inspecteurs du travail.
Oui, aussi d'ailleurs. Férié toute l'année pour les inspecteurs
Louis
du travail.
Sarkozy, merci beaucoup. La voix de droite du merci, lundi. Mathieu. Demain, c'est Cécile Duflot à votre place. Vous restez bien sur RMC à suivre le journal de 8h, la météo, Charlène Villemer et l'économie avec Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, les plus de 70 ans vont payer plus cher leurs aides à domicile.
Oui, il faut faire des économies dans ce qui est une des plus grosses niches fiscales françaises, mais ça va sans doute coûter un peu d'emploi.
Et ça va faire débat. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.